Yael et Max, comment vas-tu?
Ça va et toi Hubert?
Ça va, ça va, ça va. Alors, quoi de neuf?
Où c'est pays nous?
C'est parti, c'est aujourd'hui notre premier rendez-vous M Créole de l'année. Nous allons un peu voyager de la mer des Caraïbes à l'océan Indien, en passant par les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Nous allons rencontrer des montagnes musicales et littéraires. Et comme tu le sais Hubert, comme vous le savez, chères auditrices et auditeurs, il est important d'écouter le père de la flûte des mornes, Monsieur Max Silla, pour parler de notre histoire, méditer, agir et en profiter pour lui rendre hommage, ainsi qu'à tous nos humanistes, musiciens et poètes d'antan et d'aujourd'hui. Nous enchaînerons avec Chris Combette et l'œuvre Lembe, tirée de son magnifique album Gorée. Car si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens.
Nos ancêtres pas gaulois, Caraïbes intrépides, parcouraient les Amériques, des Rakaba Mapuche aux confins de l'Alaska. Ancêtres les Gaulois, maîtres gloutons et féroces, aventuriers ingénus, ont heurté les Amériques et découvert leur méprise. Nos ancêtres les Bantous, Nekine et Bakongo, essorer leur sueur pour désaltérer l'espoir. Oh, oh. En ces terres accablées, trois fleuves coulent dans nos veines et toutes les cultures des hommes se sont donné rendez-vous en nos contrées déroutées. Nous venus du bout du monde et de ses mille nuances, nous sommes là de l'explorer sans cure de nous égarer. Jamais nous n'aurons de cesse qu'il nous révèle ses mystères. Nous j'allais Panama fouiller canal pour Méritien, nous j'allais Venezuela. Ça sera l'absinthe la vie. Nous tous nous virons tout partout. Nous baillons beaucoup de mains tout partout. Nous planterons tout partout. Dans les foulées de nos aînés, flânant de cités en rivage, sur les flancs et coteaux du monde, nous remontons de lieux en âge. Ça qui pâtit en papati, ils sont dans la foule de Birago Job. Ça qui pâtit en paflétri, ils sont dans la révérence de Chavez. Ça qui pâtit en pacauca, sans le carré en de notre errance. Ça qui pâtit en pafane, ils sont le point du jour sous la rosée. papati, un papati. Ils sont dans la foule des Biragojov. Sakipati, un paflétri. Ils sont dans la révérence de Chavez. Sakipati, un pakaoka.
À la recherche de la liberté, au nom de nos pères et mères, avec une des plus belles voix de l'océan Indien, David Sicard.
Sans couvre-toi naguère, et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es. Oh, 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 ouais. Ne serais-tu liberté, pas juste en train de me dire. Toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qui ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es. Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire? Tu fais mine d'oublier, tout semble blanc comme neige. Mais je sais que résonne encore tout au fond de toi les pas de tous ces braves qui pour toi sonnèrent le glas. Armés de leur sagaille, galets, pioches, fusils. Aujourd'hui c'est avec la plume que je porte leur cri. Liberté! Ils t'appellent, écoute, ça vient du cœur. Ils sont fiers comme je suis de porter tes couleurs. Tu sais pertinemment comme moi qu'il reste bien des batailles à livrer, mais peut-être ne te sens-tu plus de taille. Aïe! Regarde bien dans les recoins de notre histoire. Il y a encore des passages qui demeurent dans le noir. C'est une honte! Ceux qui vivent méritent mieux. En les mettant au grand jour, tu leur permettrais de vivre heureux. Et si nous rappelions ensemble égalité, fraternité, je sais qu'elles te suivront car fidèles et dévouées. C'est vrai qu'elles ont toujours eu ce fichu caractère, mais elles ne seraient de trop. Non, 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 bien au contraire. Allons enfants des colonies, son jour de gloire est arrivé. Réveillons-nous, unissons-nous afin d'éviter le pire, un véritable tsunami qui nous jetterait dans un bien vague souvenir. Je t'ai vu, liberté, marchant la tête haute, alors relève-la avant qu'elle ne tombe sous le poids des fautes. Il est temps de redonner un vrai sens à nos valeurs. Abat toutes les rancœurs, c'est une question d'honneur. Au nom de mes pères, de leurs fils et des saints d'esprit, je t'en prie, une dernière fois dis. Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire? Ensemble, toi et moi, nos voix n'en seront que plus belles. Comme mes pères, je te suivrai, marcherai à tes côtés, te prêterai ma voix. entendu cette prière au nom de mes pères. 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 Au nom de mes pères.
Bienvenue, Madame Suzanne Drassus. Comment allez-vous?
Je vais très bien, je vais aussi bien que possible puisque je suis en plein ressourcement dans ma chère petite Martinique, hein, dans ma petite île volcanique où je suis née, au Terre-Saint-Ville. Donc là, je suis à la Pointe des Nègres, qui en plus est un lieu pour moi très important puisque vous savez que la Pointe des Nègres est ainsi appelée puisque c'était le lieu de débarquement des esclaves au temps maudit de l'esclavage.
Oui, oui, tout à fait. Suzanne, avant de venir nous voir en Normandie, vous serez au Salon du Livre de Paris. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, en effet. Alors, le prochain rendez-vous avec le public, ce sera effectivement, vous avez raison, au Salon Livre Paris, le Salon du Livre de Paris, à la Porte de Versailles. Et ce fameux samedi 19 mars, 11h30 à midi, je vais parler sur le stand du ministère des Outre-mer qui a choisi comme thème cette année paroles et musiques. Donc je suis invitée à parler de L'autre qui danse, qui est mon premier roman qui était publié par Robert Laffont sous le label Figuers. L'autre qui danse, qui a été réédité par un autre éditeur parisien, les éditions du Rocher, en poche. Et donc, bien sûr, ce n'est pas un roman sur la danse, mais c'est un roman sur l'identité de deux sœurs martiniquaises, l'identité antillaise, la recherche de l'identité avec une sœur qui danse. La danse est symbolique, même si je consacre par exemple un passage, une description de la fête antillaise, du sens de la danse et de la symbolique de la danse, mais c'est aussi surtout la symbolique du dégagement et de la résistance, puisque par exemple, toujours effectivement l'esclavage, mais qui est très présent dans, dans notre présent, ce passé-là. Vous savez que il y avait des danses d'esclaves et les attroupements, les regroupements d'esclaves de nuit et de jour, c'est d'ailleurs écrit en toutes lettres dans le Code noir, étaient interdits. Et il y avait des danses interdites par les maîtres. Donc il y a bien sûr volonté de résistance et de s'affranchir, de se libérer, même quand on est sous le joug, par la danse. Au sens multiple, non seulement le fait vraiment de danser avec son corps, mais le fait de danser et de s'évader dans sa tête. Alors je vais bien sûr parler de tout ça au Salon des Livres de Paris. Et en fait, mon actualité, elle est liée à ces thèmes, puisque je suis en train là de finir d'écrire un nouveau roman. Je ne vais pas vous donner la primeur tout de suite, mais il y a aussi donc mon dernier recueil dont je vais parler, qui s'intitule « Des éthiques féminitudes insulaires ». Alors, puisque nous sommes dans ce contexte proche du 8 mars, journée de la femme, c'est également un ouvrage qui est dédié, pas seulement au féminisme, hein, qui dépasse le féminisme, qui est dédié à la féminitude. Bon, ça va demander peut-être deux mots d'explication. La féminitude, c'est une notion, moi je l'aime bien parce que d'une part le mot, on le trouve, c'est un néologisme, c'est un mot rare, mais on le trouve chez Simone de Beauvoir, hein, l'auteur du deuxième sexe, et c'est un mot que j'aime aussi parce qu'il est calqué sur le mot de négritude. Donc de la même façon que la négritude permettait de se sentir bien dans sa peau de nègre, la féminitude doit aller au-delà du féminisme et permettre aux femmes de se sentir bien dans leur peau de femme. Et ça fait du bien aussi. aux hommes.
Pas sans savoir que le programme Aimé Césaire rendra hommage durant toute l'année 2016 à Madame Paulette Nardal pour son 120e anniversaire et également à sa chorale Voix de Chantier. Quel souvenir avez-vous de cette grande dame, de ses sœurs et de sa famille? Et quelle femme créole êtes-vous?
Vous savez, donc moi je suis une petite Martiniquaise et qui a tous les sens. Bon, Damas disait que trois fleuves coulaient en lui. Moi, j'en ai plus que trois, puisque, pour aller vite, j'expliquerai que j'ai donc le sang de l'Africain déporté en esclavage. J'ai le sang du Béké, le sang du colon français blanc. J'ai le sang de l'Indien à plume et sans plume, c'est-à-dire de l'Amérindien et de l'Indien qu'on a méchamment surnommé Couli, qu'on a fait venir après l'abolition de l'esclavage, après 1848. Pour pimenter le tout, j'ai une arrière-grand-mère chinoise. Or, Paulette Nardal, je l'ai connue, en fait, chez The Zobel. Dans un livre de Zobel que lui-même j'avais connu et qui, bon, comme vous le savez, était un Martiniquais, noir comme hier au soir, hein, comme écrit Fanon. Et les sœurs Nardal, c'est là que je les ai connues. Aussi, j'avais vu à Fort-de-France qu'il y avait cette place que Aimé Césaire lui a consacrée. Et j'avais lu sur la plaque « Femme de lettres martiniquaise ». Effectivement, j'ai su par la suite qu'elle avait plus que côtoyé Césaire et qu'elle, aux côtés de Césaire, elle avait été parmi les instigateurs du concept de la négritude. Alors c'était Paulette et ses sœurs étaient de grandes intellectuelles, des femmes de lettres très cultivées, mais elles étaient noires. Elles étaient noires. Et les Nardal, d'après ce que justement écrit Joseph Zobel dans son recueil de nouvelles qui est intitulé « Et si la mer n'était pas bleue ?» Lui, donc l'auteur de La rue Cazenègre, il évoque cette famille Foyalès, qui était une famille fameuse, parce que le père lui-même avait fait de grandes études et avait un poste très prestigieux, mais il étonnait les gens, et on peut presque dire il détonnait dans la mentalité de l'époque où on associait la réussite à la couleur blanche, parce que comme écrit de façon très amusante, mais très vraie, très forte, Zobel, les Nardal étaient la négritude en action. Ils étaient des personnes qui étaient noires, très noires, et il écrit même à croire qu'ils le faisaient exprès. C'est terrible. Et par ailleurs, Paulette Nardal a été l'une des premières martiniquaises, même une des seules, en fait, à cette époque, à avoir abordé la question de l'émancipation des femmes. Et d'ailleurs, c'est même, à ce qu'il paraît, elle qui a vraiment posé les prémices de la théorie de la négritude, mais sans cesse en parallèle avec l'émancipation féminine. Et bon, bien sûr, vous allez rappeler tout ce qu'elle a fait d'importante, mais c'est très caractéristique pour moi. C'est vraiment une personne dont je suis fière, et j'étais très très heureuse parce que j'avais été désignée comme présidente du jury du prix Césaire par l'association des étudiants africains de la Sorbonne, et lorsque je suis allée, on m'a demandé aussi de rendre un hommage à Paulette Nardal, puisque ça se passait donc il y a quelques mois, on entrait dans cette période de célébration. Et moi, donc, j'étais très contente parce qu'il y avait tous les symboles, vous voyez, qui étaient liés. Association des étudiants africains de la Sorbonne, Prix Césaire, donc présidente du jury du Prix Césaire. Césaire qui, il ne faut pas oublier, bon, reste vraiment mon père poétique. Bon, je suis tout à fait émue parce que lorsque j'avais fait avec lui un entretien, donc j'avais enregistré l'entretien, et à la fin je lui demande de faire une dédicace pour ma maman, et il a écrit en dédicace, donc ma mère se prénomme Elmire, à Elmire Gracius, que la Martinique remercie entre autres choses d'avoir mis au jour la poésie, la vraie, de point Suzanne, merci. Alors vous voyez, donc ces personnes-là, et en particulier cette figure de Paulette Nardal liée à celle de Césaire, je suis tout à fait ravie de leur rendre hommage, c'est la moindre des choses.
Merci Suzanne, on te retrouvera bien sûr le 11 vendredi prochain pour la suite de notre
interview. Femme Martinique doux, you're belle, you're jolie, you're tout chou, you're tout intéressant. Femme Martinique doux, you're belle, you're jolie, you're tout chou, you're tout intéressant. The way you passé à dans l'aria, les yeux yo, quatre clés gréfées, les ouais yo passé, à dans grand yo, c'est Pia qui a chanté l'amour sans.
giflet, un bon plein poisson et puis un bon bidjinou. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit pont chez puis. À d'un pays où ça c'est le bagaille boudi, c'est un paradis.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute du son Caraïbe impromptu sur TSF 98 et le rendez-vous M Créole.
Martinique, tu es magique.
Bienvenue Suzanne, comment allez-vous?
Je vais très bien.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos souvenirs d'enfance, votre parcours d'écrivaine?
Eh bien, en fait, tout a commencé en Martinique, où je suis née à la maison, dans le quartier des Terres-Saint-Ville, au numéro 3 de la rue Amédée Knight. C'est important pour moi parce qu'en fait, je suis née en pleine période cyclonique et ma maman n'a pas voulu aller à la maternité parce qu'il y avait l'alerte et on ne sait jamais, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on va pouvoir revenir chez soi, parce qu'elle avait déjà eu d'autres enfants, donc elle a dit qu'elle savait comment on fait. Et ce qui fait que je suis née comme ça, dans une maison, dans ce petit quartier de Fort-de-France, et simplement avec un cousin de ma mère médecin et une sage-femme. Et tout de suite, j'ai été placée sous le signe de la discrimination sexiste, puisque ce fameux cousin médecin avait accepté d'être mon parrain, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc on ne savait pas si je serais une fille ou un garçon. Et quand il a vu que je n'étais pas un garçon, il s'est rétracté. Il a dit « Ah non, 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 il paraît que ça porte malheur d'être pour la première fois le parrain d'une fille et pas d'un garçon. » Et donc, quand il m'a rencontrée des années après, que j'étais devenue professeur, écrivain, etc., un jour, il est venu et il m'a dit qu'il regrettait. Je lui ai dit « Eh bien, c'est trop tard !» Voilà. Alors, quand ma maman, dès que j'étais petite, m'a raconté ça, je me suis tout de suite rebotée, vous voyez, contre ce genre de sexisme. Et tout a continué ainsi. Donc, alors, j'ai après un parcours qui a fait que je suis allée vivre, quand j'avais 4 ans, je suis allée vivre dans l'Hexagone. Donc là, il y a un grand déclenchement d'autre chose, puisque mon enfance, maintenant, à partir de là, mes souvenirs d'enfance deviennent aussi des souvenirs d'enfance. Donc j'avais appris à lire le monde en Martinique, et à lire tout court d'ailleurs, parce que je voyais mes grands frères et sœurs qui se livraient à une activité magique, où tantôt ils pleuraient, tantôt ils lisaient. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et on dit, je lis. Alors j'ai dit, mais je veux aussi apprendre à lire. Et donc, dans la légende familiale, on dit que quand je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans, je savais lire. Effectivement, je suis allée à l'école et j'ai rencontré quelques années après une ancienne institutrice qui m'a dit qu'elle était tout à fait ébahie. Et j'en ai le souvenir qu'elle me faisait toujours lire. Elle aimait ça parce que je lisais, les autres enfants ne savaient pas lire. C'était le jardin d'enfants à l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Sceaux. Et il y avait cet accent, ce petit accent créole que j'ai perdu sur les bancs de la Sorbonne ensuite, mais que j'avais à l'époque et qui l'enchantait. Effectivement, j'avais ensuite fait ce parcours de passer par la Sorbonne, etc., qui a fait que je suis devenue professeure de lettres classiques, c'est-à-dire français, latin, grec. Mais je suis tout à fait tout à fait attaché au fait qu'on puisse transmettre à nos jeunes générations l'idée d'émergence et d'affirmation de soi et de ce vilain mot d'intégration par les études et par le fait de se former et de n'être pas des gens complètement illettrés qui se laissent porter partout. Bon, je suis persuadée que savoir ses pouvoirs. J'ai mis cette formule dans ma pièce Lumina Sophie dite surprise, parce que je suis vraiment convaincue de cela, l'idée de la transmission du savoir et bien sûr aussi la transmission du passé, des émotions, hein, bon, ce qu'on appelle le lyrisme, c'est-à-dire que le vécu de
sensations, de sentiments personnels, peut ensuite, par la manière dont c'est transfiguré par l'écriture, peut être transmis, transféré, partagé avec les lecteurs. Voilà, dans mon parcours, il y a d'abord l'écriture du roman, L'autre silence, qui était finaliste du prix du premier roman, et réédité en poche, je disais tout à l'heure. Puis, j'ai reçu un appel d'un autre éditeur, Pierre Astier, des éditions Les Serpents à Plumes, qui m'a demandé une nouvelle. En me disant qu'ils avaient apprécié l'écriture de mon roman. Alors, j'étais justement en Martinique, mon numéro lui avait été donné par mon éditeur Robert Laffont, et j'ai dit oui, d'accord, bien sûr, quand il m'a demandé si je voulais bien lui donner une nouvelle. Mais je n'en avais jamais écrit, et lui, il a commencé à me donner à l'époque un numéro de fax. J'ai dit, minute papillon, je vais vous l'écrire. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première nouvelle, de soeur de sucre et de sang, sur le thème de l'émergence d'une jeune femme dont ça se passe au début du XXe siècle, et le problème de ces jeunes femmes d'une certaine bourgeoisie mulâtre, créole, et qui sont coupées du reste du monde, qui sont coupées aussi de la langue créole, parce qu'il faut parler français, hein, comme disait Léon Gontran Damas, il faut parler le bon français, etc. Donc c'est sur ce thème-là, et aussi même coupées de la population de couleur plus foncée, parce qu'il y a tout ce préjugé de race qui perdurait et qui, hélas, perdure presque, on peut le dire, encore aujourd'hui, même si, bon, on a beaucoup évolué dans ce domaine.
Toujours à l'écoute du son Caraïbe impromptu sur TSF 98, on se retrouve avec une pause musicale, la version mondiale du titre Bras Rouillés de Jeff Bonnard, reprise par le groupe Bras Rouillés, Claude Césaire, Max Hélène, Alain Loreski, José Marie Rose et José Zébina.
Au moins pas ça. besoin pour ça. Il bat moins en bois brûlé. Il bat moins en pile sang. Mais mon bien résistant, d'après les exploitants. Pas belle, li pas belle, comprends-moi. Nous pas fait pour le luxe. Pas même pour le calice. Ni droit être admis. D'après ça, moi.
Oui, Suzanne, je vous propose de revenir sur votre parcours d'écrivaine et les prestigieux prix que vous avez obtenus.
Vous savez, dans mon parcours, il y a eu la publication d'autres nouvelles qui se sont réunies dans le recueil Rue Monte au Ciel, qui a été coup de cœur à la FNAC à sa sortie. La pièce ensuite Illumina Sophie des surprises qui a été jouée en Martinique, notamment sponsorisée par TV5 Monde, et qui a obtenu la médaille d'honneur de Michel Cher, qui parle justement d'une héroïne martiniquaise. Nous avons en fait cette figure héroïque de Illumina Sophie des surprises que je porte en moi. C'est un personnage historique de l'insurrection du sud de la Martinique de 1870 qui était absolument battante. Enfin, c'est une femme battante, une femme debout comme je les aime. Et d'autre part, deux recueils de poèmes. Le premier s'appelle Exquise des réductions métisses. Il a eu deux prix en fait, parce que quand il est sorti, j'ai eu le prix de la Société des poètes français pour l'ensemble de mon œuvre. Et ce recueil, Exquise des réductions métisses, a eu le prix FESCAN. Alors je suis contente d'avoir eu ces deux prix parce que ils sont très complémentaires. La Société des poètes français qui m'a décerné un prix, c'est une société très prestigieuse qui a été créée, c'est la seule d'utilité publique, société de poètes. Elle a été créée par des poètes prestigieux comme José María de Heredia, Sully Prudhomme, etc. Et en face, le prix FESCAN est, lui, un prix organisé par une société de personnes d'outre-mer vivant dans l'Hexagone. Alors, ce qui fait qu'il y a quelque chose de très complémentaire, vous voyez, qui rend bien l'idée de mon métissage, moi qui suis une martiniquaise, prof de lettres classiques, donc une personne métissée dans mon sang et culturellement, métissée et avec ces cultures multiples, une culture créole et la culture française, la culture gréco-latine que j'adore et qui me porte, parce que les philosophies antiques comme le stoïcisme, même l'épicurisme, m'aident à vivre, y compris à vivre le monde d'aujourd'hui. Je pratique beaucoup, par exemple, le carpe diem, cueille le jour, saisis l'instant présent.
La vie a d'un roulé, qu'on jouait sans attention, et personne pas jamais arrive à y arrêter. Tout ça, tant qu'on comprend, qui sait où un besoin, nous t'écrons des planètes, que tout n'est sans toucher. Au béni, donne-moi, au télan béni, moi, on vit pas les bandes, les cieux, aucun brillant, balayer la peau.
De Léa Galva, Mène et moi, le groupe 3.
Suzanne. Beaucoup d'ouvrages de témoignages inspirent l'audiovisuel et certains films, comme celui de la réalisatrice Frédérique Bedos, Des femmes et des hommes, qui traite des conditions des femmes dans le monde. Quel regard portez-vous ?
Alors, hélas, je n'ai pas vu le documentaire dont vous parlez, mais bien évidemment, c'est un regard à la fois tantôt apaisé, tantôt ulcéré. Je porte sur la femme dans le monde, sur la condition des femmes dans le monde, ce regard. Bien sûr, la condition des femmes est horriblement perturbée, disons, même si elle a évolué dans le monde. Et je ne cesse chaque jour de me battre dans mes écrits, dans mes agissements, pour la faire évoluer. Toute mon œuvre, en fait, est axée vers cela. Je me bats aussi au stade plus proche de nous, au niveau du mythe du poteau mitant. Le mythe du poteau mitant, c'est-à-dire l'idée que la femme antillaise est le poteau, le pilier mitant. Bon, mitant, c'est un vieux mot de l'ancien français qui est passé en créole, comme la plupart des mots créoles. Et le mitant, on recouche ça dans la chanson populaire, dans le mitant du lit, c'est le milieu. Alors le poteau mitant, cette image, elle est terriblement forte et même dangereuse. Parce que la femme poteau mitant, c'est la femme qui est le pilier central du foyer, sans lequel tout s'écroule. Mais c'est lui mettre tout sur le dos, finalement, à la femme. Autrement dit, absoudre un peu aussi l'absentéisme du père, l'absentéisme dans la famille de l'élément masculin. Et donc c'est très beau, c'est à la fois élogieux, laudatif pour les femmes, mais dangereux. Parce que ça peut rendre les hommes démissionnaires. Alors surtout que figurez-vous que nous sommes, et ça ce sont des statistiques, nous sommes vraiment l'île aux femmes, parce que nous sommes, en Martinique, champions du monde de la proportion de femmes supérieure à la moyenne des hommes. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, nous avons plus de femmes que d'hommes. Et alors bien sûr que ça permet à ces messieurs de justifier leur, leur polygamie non officielle, leur polygamie officieuse. Et il y a aussi là des séquelles de l'esclavage dans le fait que nous ayons cette société qui est, je le répète, dangereusement matrice focale. Je dis bien matrice focale, c'est-à-dire que ça vient donc de focus, le foyer. Ce sont des foyers autour de la mère, des foyers constitués, des familles constituées autour de la mère, avec comme figure centrale la mère, et le père absent, ou démissionnaire, ou... Mais ce n'est pas du matrice arca, hein, parce que dans matrice arca, vous avez le verbe grec arkein, qui veut dire gouverner, diriger. Parce que quand il y a l'homme, à ce moment-là, quand l'homme est présent, ce n'est pas la mère qui dirige. Elle est, même au contraire, encore dans notre société martiniquaise, antillaise même, on peut dire au sens général, la femme, elle est résignée à une prétendue supériorité de l'homme. Et ce qui est tragique, c'est que bien des femmes antillaises, des anciennes générations, ont élevé leurs enfants dans ce sens, c'est-à-dire que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent, les filles doivent rester à la maison, les filles doivent observer une espèce de pudeur, hein, la fameuse pudeur féminine, on ne demande jamais aux garçons d'être pudiques, etc., etc. Bon, je ne veux pas être trop long, mais tout le monde est au courant de cela. Et aujourd'hui, il y a une évolution à la fois dans le monde et chez nous qui consiste à, et on va revenir à ce que je disais précédemment, à des évolutions aussi socialement et professionnellement des femmes qui passent par leurs études, le fait que les femmes, les filles étudient bien, sérieusement, ont ensuite une indépendance financière qui leur permet aussi de relever la tête
mais on a quand même toujours des cas de cette phallocratie, cette misogynie, ce machisme même, hein, qui perdure. Donc on est, je vous dis, c'est pour ça que je vous ai répondu, mon regard est tantôt apaisé quand je vois cette évolution dans le bon sens, tantôt ulcéré quand je vois qu'on continue à avoir par exemple, ça m'a inspiré un poème. Ici, on a quand même un type qui avait été chassé par sa compagne, qui faisait sa vie, qui avait son métier, qui travaillait, qui avait sa petite voiture, qui conduisait sa petite voiture, et ce bonhomme, enfin je ne sais pas comment le qualifier, il a mis le feu à cette femme dans sa voiture. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose là de totalement phallocrate. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui considèrent que la femme est leur propriété. Alors on retrouve le vieux mythe que les Romains appelaient celui du pater familias, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, alors on a ça en France aussi, tout récemment en France, il y a aussi un homme qui avait divorcé, la femme faisait sa vie, avait son métier, etc. Il est venu, il a tué la femme et les enfants. Et les exemples sont innombrables. Donc, j'ai écrit justement un poème dans mon dernier recueil de poèmes, le deuxième. En fait, j'ai publié peu, hein. J'ai 5 livres en tout. Mais 5 livres, et puis pour le reste, bon, je suis présente dans des ouvrages collectifs. Mais donc, dans mon deuxième recueil de poèmes qui s'intitule Des petites féminitudes insulaires, je parle justement de tous les. J'ai écrit un poème qui s'appelle Sentir le vent dans sa chevelure et qui résume à peu près tous les cas de discrimination et en fait qui résume la condition féminine à travers le monde, hein, à travers le monde. Il commence par cette phrase: elle a le droit d'aller à l'école. Voilà. Alors parce qu'il y a des endroits, vous le savez bien, hein, où la femme n'a pas le droit d'aller à l'école. Il y a des endroits où, comme c'était le cas encore en France jusqu'en 1946, la femme n'a pas le droit de voter, etc., etc. Et c'est vrai que j'espère que je vivrai assez longtemps. Bon, j'ai 64 ans, c'est peut-être trop peu ce qui me reste à vivre, mais j'espère que je vivrai assez longtemps pour voir un monde épanoui où on aura. Il ne s'agit pas de faire dominer l'un sur l'autre. Moi, je ne suis pas là pour être une féministe enragée. Je ne suis pas castratrice. Je ne rêve pas d'un monde d'Amazon qui aurait piétiné les hommes, les mâles. Non, je ne peux pas les émasculer, pas du tout. Au contraire, moi, je suis tellement féministe que je suis capable de dire, voyez, un homme, hein, bon, un écrivain surtout, a le droit de dire, j'aime l'amour, j'aime les femmes. Même s'il est marié, sa femme ne va pas lui faire une scène, elle n'osera pas. Eh bien, moi, en tant qu'écrivaine, je dis, moi, j'aime les hommes, hein, j'aime les hommes, voilà. Mais je ne veux pas qu'on me gâche le plaisir d'être une femme, voilà.
C'est comme être ange et démon à la fois. Une femme de nos jours est secrète, dure et fragile à chaque instant. Elle n'a plus le cœur à se soumettre, elle se protège énormément.
Elle est sûre du temps.
Être femme, c'est donner la vie, affronter le meilleur et le pire. Être femme,
I'm le choix, indépendant on aime ça. Exigeant on est comme ça, battant on n'a pas le choix, indépendant on aime ça.
Fondamentale de la pensée créole universelle, Suzanne Dracius, Suzanne Césaire. Y a-t-il un lien ?
Vous êtes très fin, vous ne pensez pas si bien dire. Bon, moi je ne voudrais pas être trop long, mais si je m'appelle Suzanne, c'est un prénom qui a été choisi par ma grand-mère, parce que comme bien des Antillais, je suis très attachée à ma grand-mère. Et ma grand-mère habitait au Père Saint-Ville, rue Toussaint-Louverture. Elle admirait beaucoup à la fois d'ouverture, dont la femme se prénomme Suzanne, et elle admirait aussi Suzanne Césaire, dont elle avait lu les textes anthropiques, etc. Donc je me prénomme Suzanne en honneur, en hommage à Suzanne Césaire. Et il y a même une anecdote, c'est que Aimé Césaire avait lu donc mon premier roman, L'autre qui danse, et un jour je rencontre un de ses fils qui me dit, mais tu en as de la chance, ton roman trône sur la table de mon père, et il est toujours en train d'en faire l'éloge, etc. Mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Ensuite, j'ai publié Rue Montaussiel. Rue Montaussiel, il y a eu une anecdote parce que, en fait, il y a une universitaire américaine qui était venue ici, qui travaille sur, qui étudie mes œuvres avec ses étudiants, et nous allons rendre visite à Césaire dans son bureau. Et à ce moment-là, elle voit le livre qui était un livre blanc, la couverture de Rue Montaussiel est blanche, mais Césaire l'avait tellement lu et relu, et il l'aimait tellement qu'il était devenu un peu gris, un livre qu'on a bien aimé. Justement, elle a noté ça dans une biographie qu'elle a faite de moi, parce qu'elle a écrit un ouvrage qu'elle a coordonné qui s'appelle Métissage et marronnage dans l'œuvre de Suzanne Dracius, où elle relate cela. Et donc, effectivement, un des amis, Monsieur Cordémy, qui était un des grands amis de Césaire, que j'avais rencontré, m'avait dit, il faut que je vous emmène voir Césaire, parce qu'il parle de vous tout le temps, il aime vos livres, et en plus, vous portez le même prénom que sa femme Suzanne, donc il m'a emmené le voir. Et effectivement, alors donc, je ne sais pas si vous connaissez en créole, il y a donc dans le jeu du Serbi, le Serbi, il y a cette expression, quand on a fait un 6, on s'écrit Suzanne, ma femme. Suzanne, ma femme. Et quand je suis entrée, Césaire, bien sûr, et qui pourtant qui n'aime pas trop parler créole, pourtant il l'a dit en français, il s'est écrié Suzanne, ma femme. Alors on a blagué là-dessus. Et alors, ça m'a permis justement, puisque on a eu un certain nombre de rencontres, on a fait un entretien ensemble, etc. Et je me suis permis, puisqu'il aimait mon écriture, et je me suis permis de lui poser la question, parce que quand j'ai commencé à faire les répétitions de ma pièce Lumina Sophie de Surprise, il y a eu quelqu'un qui m'a parlé d'une pièce qui avait été écrite par Suzanne Césaire à partir de Yuma, et qui avait été jouée. Mais le texte a été perdu, le texte n'a jamais été publié. Alors, j'ai
posé la question à Césaire, et vous savez, comme je me suis permis cette impertinence très pertinente en lui demandant, mais pourquoi, alors que vous étiez un cofondateur de la maison d'édition Présence Africaine, pourquoi est-ce que vous n'avez pas publié ce texte, le texte de cette pièce? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait publier? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut le trouver? Il m'a dit non, on ne peut pas le trouver, etc. Et puis, surtout, le grand homme m'a répondu d'une petite voix. À l'époque, c'était difficile pour les femmes. Alors là, je me suis récriée. J'ai dit non, parce que c'est exactement la même époque que pour Simone de Beauvoir. C'est exactement la même époque. Donc, bien sûr, ça a été plus difficile pour elle que pour Sartre, mais elle a quand même pu publier, et avec le succès que l'on sait. Donc, en insistant, ça aurait été... Bon, maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Mais voyez, vous avez très bien percé les choses, parce que, en effet... Suzanne Césaire est quelqu'un dont j'adore les textes, j'aime bien cette force qu'elle a. Par exemple, quand elle dit que notre littérature doit être cannibale.
Oh femme, comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes. Moi je suis presque à genoux. Toutes ces guerres à refaire chaque jour.
On retrouve le trio Esperanza avec
Sans retour. Dis quel est le secret de ton âme? Dis-moi, ô femme.
Amour. Tu sèmes d'autres siècles dans mon ventre. Amour, amour, toi tu es le sel et moi la terre. Il nous reste des hommes à faire.
Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme? Dis-moi. Ô femme,
amour, est un fort amour, calador. Eu vivo hoje pra depois, devo lutar, lutar por dois. Para que semeie outras eras no meu ventre. Amor, amor, você é o sal, eu sou a terra, nosso barro os homens geram.
Oh, fama. Comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. Assim de pé na eterna dor de ser. Quando estou quase a morrer.
Amor.
nous reste désormais à faire.
Parmi tous ces éléments, pour vous, le monde a-t-il un sens ?
Le monde, je ne sais pas s'il a un sens, mais moi, en tout cas, je le prends dans tous les sens et inversement. Comme disait l'ami Arthur Rimbaud. Par exemple, dans le monde, il y a une chose qui a un sens, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'élection de Barack Obama. C'est une esthétique, cette élection. C'est presque une quasi-poétique. C'est pas seulement une politique. Parce que, imaginons, si Obama avait été battu, ça aurait été la vexation suprême pour toute la diaspora noire. Donc, alors, même si Obama termine ses deux mandats sans avoir fait le miracle, il est un miracle, il est un prodige dans le monde. Et comme moi, j'ai grandi dans ce monde où ne serait-ce qu'une goutte de sang nègre était traîné dans la boue, ou ma part noire était plongée dans l'opprobre. Bien, je me dis que pour une fois, où dans ce monde, le noir est associé à une apothéose, je n'ai pas boudé mon plaisir. D'autant que on a affaire à quelque chose de post-racial, parce qu'en fait, il incarne un idéal post-racial. Ce monde, il est aujourd'hui complètement plus par-dessus tête, mais on peut avoir cet idéal post-racial, cet idéal post-moderne, c'est-à-dire utiliser les choses, utiliser tous les arcanes de la modernité pour en faire du bien, du mieux, du meilleur, en étant conscient du passé. En fait, moi j'ai d'ailleurs utilisé ce terme de anamnésie propitiatoire, qui est le titre de mes poèmes, et c'est comme ça que je me fonde. Pour bien vivre le présent et mieux gérer le futur, il faut être attentif aux choses du passé. Donc, anamnésie, bon, tout le monde se souvient de ce que c'est que l'amnésie, et l'anamnésie, c'est le contraire, c'est se souvenir volontairement du passé, c'est désobéir à l'injonction d'oublier. Et propitiatoire, comment ? Le devoir de mémoire, oui, voilà. Et propitiatoire, c'est-à-dire pour rendre propice l'avenir. Et en fait, c'est un idéal postmoderne, et je vais en fait terminer ma réponse en citant à nouveau Rimbaud qui disait il faut être résolument moderne. Donc, le monde a le sens qu'on veut bien lui donner. On est résolument moderne parce que nous sommes bien conscients que nous ne sommes jamais loin du chaos. La beauté du monde, la beauté parfaite du monde, qui est d'ailleurs le mot grec cosmos, hein, le cosmos. Vous voyez, ça s'apparente au sens de cosmétique. Vous avez les produits de beauté qui s'appellent des cosmétiques. Dans le mot cosmos, dans le mot grec qui veut dire le monde, il y a l'idée que c'est la beauté parfaite, la perfection. Nous en sommes loin, mais en même temps, il y a des obscurantismes de plus en plus virulents qui tentent de précipiter le cosmos dans le chaos. Et ça, voilà le sens qu'a le monde aujourd'hui pour moi, c'est-à-dire que le monde doit essayer de rester cosmos ou de devenir aussi cosmos que possible et de ne pas tomber dans le chaos.
Regarde-la, dans son manteau d'azur, et elle a l'air si pure.
Vue de loin,
écoute-la,
gémir sous nos malveillances du fond de ses souffrances.
On torture Gaïa, notre mère, pour des plaisirs éphémères. Notre inconscience sous sa lilo en pollue l'air.
Son manteau de fourrure qu'elle porte comme une injure.
Oh, on en est là. On agit contre nature pour le profit de l'issue. On consomme, on abuse. On détruit, on s'amuse.
Et tant pis pour le futur. Se priver, c'est trop dur.
C'est la planète qu'on tue, alors qu'on sait que ça use.
Pour vivre à fond maintenant. Tant pis, tant pis pour nos enfants.
La terre, du vent, des vagues, des voix liées, de la poésie. Oui, Suzanne, laissons-nous porter par le souffle de votre voix, de femme fondamentale de la féminitude. Nous vous écoutons.
Fantasme de femme. Il me plaît de chevaucher aussi, comme sur les fresques de Pompéi,
à la romaine, à l'andromaque. Alors vous porteriez ma marque pour une femme aussi grand plaisir. Ainsi n'aurez-vous rien à redire. C'est comme ça que vous serez comblé à faire toutes ces choses que vous dites au coq chantant à l'infini. Toutes ces choses interdites en théorie, comme on dit, fantasme de femme. Après tout, qu'est-ce que l'on risque à faire ces choses que vous me dites ? Si d'aventure nous le faisions, pourvu que nous le fassions en douce folie. Car une femme debout d'aujourd'hui ne sera pas pour autant maudite. Oh, comprenez combien j'hésite. Quelle est cette pudeur féminine qui me retient aux abords ? Je sais bien qu'il faut que j'évite de faire ces choses que vous me dites en mal appris, en mal fini. Croyez bien que cela mérite que ce soit chose interdite. Maintenant, c'est moi qui vous invite, en mélodie, en harmonie. Faut-il vraiment que l'on soit ivre pour faire exulter nos chères vives ? Faut-il que longuement l'on dérive en féerie, en barbarie, extrême dans nos emportements autant que dans nos engouements, en frénésie, en malcadie ? Ah, pouvoir chevaucher aussi comme sur les fresques de Pompéi à la Romaine, à l'Andromaque, à la rue d'Enfer, à Saint-Pierre, juste au-dessous du volcan, sous la pelée rue Montauciel, faire toutes ces choses interdites en paradis, m'offrir toutes ces poses que vous dites en mystique cri, et les mystiques cris, m'offrir toutes ces poses interdites, et cric, et crac, et cric, crac. Non, la cour ne va pas dormir. Encore, accord, et à cri.
Un hédoniste poésie. Philosophie, la philo, elle a pris l'envol et pis, elle a pris courir, marronne en caribéenne épicurie. Merci Suzanne de nous avoir offert ce poème à l'approche de la journée mondiale de la poésie. Et à bientôt.